Vous écoutez
RMC.
Mercredi 10 juin.
L'info sur RMC.
Il est 8h02, Céline Kallmann est là pour les infos. Céline, bonjour.
Bonjour à tous. Faut-il doter tous les policiers d'un taser, une arme pourtant constamment décriée? Christophe Castaner a émis l'idée après l'annonce de la fin de la technique dite de l'étranglement. Troisième projet de loi de finances depuis le début de la crise, budget qui devrait finalement atteindre 460 milliards d'euros. La crise du Covid-19 aurait-elle pu être mieux gérée? Qui sont les responsables des défaillances? Une vaste enquête préliminaire est ouverte après le dépôt d'une quarantaine de plaintes. Bienvenue à tous sur RMC. Comment interpeller un délinquant sans la technique dite de l'étranglement? Pour Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur le disait ici même hier matin, le pistolet à impulsion électrique fait partie des alternatives. Certains syndicats de police demandent à ce que cette arme soit généralisée, sauf que l'utilisation du taser n'est pas sans risque. Thomas Chupin.
Pour le syndicat de police Alliance, c'est donc une certitude. Le pistolet à impulsion électrique est la solution pour remplacer cette technique d'étranglement supprimée. Grégory Goupil est l'un des représentants du syndicat en Île-de-France.
Il suffit d'utiliser le taser en position choqueur pour pouvoir maîtriser l'individu. C'est une petite décharge électrique, mais il y a deux positions avec le taser. Vous avez la position choqueur et la position des sondes qui neutralise en fait la relation entre la moelle épinière et le cerveau et qui la neutralise complètement l'individu.
S'attaquer à la moelle épinière et le cerveau, ce n'est pas du tout anodin. Cela demande une formation générale qui n'existe pas aujourd'hui, même en école de police. Pourtant, le taser a tué en France comme à l'étranger. L'ONG Amnesty International parle d'une arme redoutable. Anne-Sophie Saint-Père est l'une des porte-parole de l'ONG.
En droit international, ça ne peut pas être utilisé simplement pour maîtriser une personne, puisque comme il y a un risque létal, ce serait tout à fait disproportionné de prendre le risque de tuer une personne simplement pour la maîtriser. Par ailleurs, aujourd'hui, le cadre du débat est essentiellement sur qu'est-ce qui nous reste comme usage de la force. Il y a beaucoup d'autres choses que les policiers doivent maîtriser, à commencer par la négociation, la communication.
Et pour Amnesty International, en France, policiers et gendarmes sont mal formés au dialogue, à la psychologie et emploient trop souvent la force comme premier recours.
Hier soir, des milliers de personnes se sont rassemblées contre le racisme et les violences policières un peu partout en France. Au moment où se déroulaient les funérailles de George Floyd aux États-Unis, de nouvelles manifestations sont prévues ce week-end. RMC 8h05, des milliards et encore des milliards. Le gouvernement déploie aujourd'hui en Conseil des ministres un nouveau budget en soutien au secteur dévasté par la crise. Troisième projet de loi de finances rectificative pour tenter de limiter la casse. Hier soir, Bruno Le Maire a annoncé la couleur. Des centaines de milliers de personnes vont perdre leur emploi dans les mois à venir en France. Parmi les secteurs les plus touchés, le BTP. Victor Joinin, d'après vos informations, des mesures d'urgence seront annoncées aujourd'hui pour ce secteur.
Une première série de mesures s'attaque à la problématique des surcoûts sur les chantiers, c'est-à-dire les retards causés par le confinement et le respect des règles sanitaires comme l'achat de gel par exemple. Ces surcoûts devront être partagés entre les maîtres d'ouvrage publics et les entreprises du BTP et pour compenser la baisse de leur rentabilité, les PME de moins de 50 salariés paieront seulement la moitié de leurs charges sociales de mars, avril et mai. Deuxième axe, le soutien à la relance, 1 milliard d'euros va être injecté dans les finances locales, notamment pour investir dans la rénovation thermique des bâtiments publics. Des mesures qui sont loin de satisfaire les fédérations du BTP. Elles espéraient notamment une réduction du taux de TVA, mais le ministère du Logement estime que le secteur a bien rebondi. Depuis la fin du confinement, plus de 85% des chantiers du bâtiment ont repris et 99% des chantiers de travaux publics.
Pour l'instant, aucune annonce forte concernant les familles les plus précaires, fragilisées par la crise du Covid-19. Pourtant, sur le terrain, eh bien, les associations voient la situation se détériorer concrètement de jour en jour. Leur reportage en région parisienne de Florian Chevalet.
Au siège du Secours catholique de Seine-Saint-Denis, les appels de familles en situation de détresse continuent d'affluer.
Et avec l'assistante sociale, vous en avez parlé de cette difficulté financière?
Valérie est animatrice de réseau de solidarité.
Elles sont en difficulté pour acheter des couches, du lait. Ils ont les enfants qui vont pas à l'école, donc il faut les nourrir.
Entre 15 et 20 nouvelles familles appellent tous les jours, selon Camille Hugues, déléguée départementale du Secours catholique.
Ce sont des familles qui étaient inconnues de nos services précédemment. Et aujourd'hui, ce sont des personnes que l'on doit aider pour qu'elles puissent arriver à se nourrir correctement et avoir un niveau de vie digne.
L'autre urgence pour ces familles, le logement. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, demande un fonds d'aide de 200 millions d'euros.
Aujourd'hui, beaucoup ne peuvent plus payer leurs loyers et leurs charges et ça va s'accentuer dans les mois à venir. C'est une vraie bombe à retardement.
Côté politique, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, demande un plan massif pour lutter contre la pauvreté.
Il n'y a eu que 800 millions d'euros de débloqués pour aider les plus démunis. Ils n'ont perçu que 150 euros. Une seule fois sur toute la crise, c'est loin d'être suffisant.
Si certains membres du gouvernement souhaitent des aides pour ce public, pour l'instant, rien n'est décidé.
Les salariés de Derichebourg, sous-traitants d'Airbus, votent la grève reconductible jusqu'à vendredi. Ils refusent la proposition de leur direction de baisser leur salaire pour sauver l'activité. Et si les restaurants rouvraient avant le 22 juin en zone orange, Jean-Baptiste Lemoine, le secrétaire d'État au tourisme, n'y est pas fermé. Actuellement, les restaurateurs ne peuvent servir les clients qu'en terrasse. RMC 8h08, une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Homicide et blessure involontaire, non-assistance à personne en péril. Le parquet de Paris se penche sur les responsabilités dans la gestion de la crise sanitaire. Des dizaines de plaintes ont été déposées, des syndicats, des médecins, des particuliers qui cherchent les responsables donc à ce manquement en début de l'épidémie. Jean-Baptiste Bourgeon.
Le docteur Ali Djemoui, médecin généraliste dans le Val-de-Marne, est mort à 59 ans du Covid-19. En première ligne, face à l'épidémie, sa veuve estime qu'il n'a pas été assez protégé.
Pas de gel, pas de blouse. J'aurais acheté peut-être des masques à mon mari. Pas de masque. Je pense qu'on n'a pas été accompagné. Je suis désolée. Il est parti en 5 jours. Il ne savait même pas qu'il avait le Covid-19. Comment voulez-vous, il n'y avait pas de test. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs au niveau de la gestion, au niveau de la communication, au niveau de la prévention sanitaire. Beaucoup d'erreurs.
Persuadé aussi que son mari est mort contaminé par ses patients, il en côtoyait près de 60 par jour dès le mois de février. Pourquoi les autorités de santé n'ont-elles pas réagi, s'emporte maître Fabrice Divisio, son avocat.
Alors que la maison brûlait déjà dès le mois de février en Ile-de-France, alors que les médecins du secteur étaient contaminés, tombaient comme des mouches, aucune mesure n'a été prise avant le début du confinement. Qui est responsable de quoi ? Pourquoi ?
L'avocat pointe aussi la responsabilité de l'ordre des pharmaciens qui, selon lui, n'aurait pas voulu délivrer des masques au début de l'épidémie afin de respecter les consignes du gouvernement.
Si vous avez des enfants au collège, le reportage qui va suivre va sans doute vous parler. Le protocole sanitaire, vous le savez, a largement modifié l'organisation des classes. Résultat, les élèves se retrouvent parfois avec des enseignants qu'ils ne connaissent même pas. À Marseille, situation encore plus hallucinante. Des élèves en classe de 3e ont eu la semaine dernière des cours de chinois alors qu'ils n'étudient pas cette langue. Nicolas Repère, Benjamin Pelsi.
À la place d'un cours de maths ou de français, vendredi dernier, Jérémy, élève de 3e, a eu une initiation au chinois.
On a fait 1h30 de chinois et après, la prof, elle s'est dit qu'on comprenait un peu rien et elle a voulu changer. On a juste traduit un texte en espagnol et un texte en italien.
Une improvisation totale, selon le père de Jérémy, qui ne décolère pas.
On attendait vraiment beaucoup de ce mois avant les vacances pour les remettre dans le rythme. C'était finalement plus une garderie qu'autre chose. Donc, déçu un petit peu en colère. De se dire que les profs ne jouaient pas le jeu alors que les enfants, eux, étaient présents en cours.
Pour Sandrine Perrault, la représentante des parents d'élèves, l'enseignement dispensé en classe depuis la reprise du collège n'est pas satisfaisant.
Je conçois qu'ils ne fassent pas les emplois du temps et que ce soit le même professeur qui les suit pendant toute la demi-journée pour des raisons d'hygiène, mais je comprends pas pourquoi c'est pas des vrais cours.
Le rectorat assure de son côté que cette heure de chinois est la conséquence d'une réorganisation à la dernière minute des emplois du temps et que depuis, les choses sont revenues à la normale.
Un collectif de parents d'élèves d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis réclame en justice la réouverture de toutes les écoles primaires de la commune. Une audience doit se tenir cet après-midi. En football, le Conseil d'État a retoqué l'ensemble des requêtes de Jean-Michel Aulas en signant l'arrêt de la Ligue 1 à la 28e journée. Toulouse et sont pour l'instant maintenus en Ligue 1. Noël Le Graët sera à l'Élysée à 17h. Le président de la Fédération française de football espère la présence de 20 000 spectateurs pour les finales des Coupes de France et de la Ligue. RMC s'associe à Reporters d'Espoir dans le cadre de l'opération La France des Solutions, tous mobilisés. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon où les musiciens de l'Orchestre National de la Ville entament une série de concerts. Ils jouent dans l'EHPAD Les Girondines pour la plus grande joie des résidents. Florence Donjon.
Quelques notes de musique et la magie opère, les mains battent la mesure, les corps se réveillent sur des airs connus de tous.
La 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 la.
À 90 ans, Raymonde esquisse même volontiers quelques pas de danse, elle est conquise.
J'adore. Moi, je suis toute seule, je suis une vieille, j'aime bien les gens comme ça.
Yves, lui, est mélomane, ce concert est un vrai moment d'évasion.
C'est une musique qui porte de l'espérance, qui porte de la joie.
Ces émotions fortes, Carole Millet les ressent aussi en tant que musicienne.
De jouer en petite formation, il y a un échange. On envoie quelque chose, on a une réponse. Et pour moi, humainement, c'est tellement important de pouvoir prendre l'instrument, d'aller jouer partout, c'est génial.
Après 3 mois particulièrement difficiles, Pascale Malter, directrice de l'établissement, savoure ce moment de bonheur bien mérité.
Là, c'est de nouveau de la joie qui rentre dans l'établissement avec cette musique. Et ça, c'est fantastique.
Les concerts se poursuivront dans les différents établissements de la ville jusqu'au milieu de l'été.
8h12, merci Céline, c'est beau.